Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous retrouvons Françoise Gernot. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Pour la deuxième partie, la deuxième émission que nous avons intitulée « Kierkegaard commente le sacrifice » entre guillemets d'Isaac. Et dans la première émission, que je conseille aux auditeurs d'écouter,
bien sûr,
ça serait plus facile, mais vous allez la résumer. Vous aviez lu le
début,
la Bible hébraïque sur le sacrifice, et maintenant vous allez encore plus l'interpréter en vous aidant d'autres lectures aussi.
Oui.
Et puis, rappelez crainte et tremblement de Kierkegaard.
Oui, je me propose de lire pour vous les passages qui me paraissent essentielles, très bien d'ailleurs structurées, d'une œuvre de Søren Kierkegaard qui s'intitule « Crainte et tremblement » et dont l'auteur n'est pas Kierkegaard puisqu'il utilise un pseudonyme, mais un certain Johannes. Johannes, donc, de Silencio, à propos du silence. Et je terminerai mon analyse sur cette question du silence qui hante, en quelque sorte, le passage biblique du sacrifice ou de la ligature d'Abraham, selon la manière dont on le qualifie. Bien. Alors, nous savons tous, je vais peut-être relire simplement le passage essentiel. Donc, Dieu s'adresse à Abraham, et Abraham dit « me voici hein, ».« Me voici ». Et bien sûr, nous le savons tous, Dieu demande à Abraham de sacrifier, de lui sacrifier son fils unique, celui que tu aimes, Isaac. Je dis bien Isaac. Mmh. Unique, fils unique, ce serait à discuter, puisqu'il a déjà un autre fils. Je lis le texte. Abraham, donc sur le mont Moria, y construisit un autel, disposa le bois, lia Isaac, son fils, et le plaça sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais un envoyé du Seigneur l'appela du haut du ciel en disant « Abraham, Abraham !» Il répondit encore une fois « Me voici !» Et l'ange du Seigneur, ou plutôt l'envoyé du Seigneur, demande à Abraham d'arrêter son geste. Alors, quand il s'agit par exemple d'une représentation picturale de cette scène, nous voyons toujours le couteau en suspens sur le corps étendu ou non d'Isaac.
Oui, on le voit parfois à genoux, on le voit parfois allongé.
Oui, oui,
dans le tableau
oui.
qu'on a choisi de Laurent Delahire, il est allongé.
Il est allongé, oui, oui, sur une table d'offrande.
Oui. Enfin,
voilà, oui, sur une table d'offrande, sur la table du sacrifice. Alors, pourquoi Kierkegaard a-t-il retenu de l'immense production biblique, d'abord un texte de la Bible hébraïque, alors que crainte et tremblement, c'est lié à la version chrétienne de la Bible, c'est-à-dire à une épître de Paul. Bon, je n'y reviens pas. Pourquoi a-t-il choisi cette figure d'Abraham et surtout ce texte? Alors, ce texte dont un des plus grands essayistes philosophiques, qui s'appelle Auerbach, dit qu'il est imprégné d'une tension oppressante. C'est vrai que quand on lit ce texte, il y a une émotion, il y a un suspens, hein, un suspense qui se dénoue. Bizarrement d'ailleurs, le dénouement est très bizarre, mais on ne peut pas ne pas être atterré, troublé et scandalisé. Scandalisé.
Il aurait tué son fils.
Par un acte dont, je le rappelle parce que j'en ai parlé dans le premier épisode, si j'ose dire, nous sommes donc en face d'un acte qui peut être, qui nous saisit d'épouvante, mais qui peut être ou bien un meurtre, après tout, il assassine son fils,
ouais.
Ou bien, au contraire,
un acte de foi.
Un acte sacrificiel qui élève au-delà du crime qui serait considéré comme tel par la morale courante, au-delà de ce crime, il y aurait l'acte de la foi la plus absolue. Donc, si vous voulez, Abraham, il est dans cette dualité, presque duplicité, comme s'il y avait une contradiction interne, douloureusement vécue par lui, hein, dans l'angoisse, entre l'amour éperdu pour son fils qu'il va sacrifier et l'amour éperdu comme réponse à l'intervention divine, au commandement divin. Et c'est cela qui est évidemment le plus intéressant, c'est qu'il y a, comme le disait Auerbach, il y a une tension. Il y a une tension exceptionnelle dans ce passage extrêmement court, extrêmement sobre. Bon. Ce qui caractérise tout de même, en général, la Bible hébraïque, c'est en tout cas, pour la partie de la Genèse en particulier, c'est l'extrême rapidité, l'extrême concision des scènes.
Oui.
Tout est extrêmement, vraiment, tout est extrêmement réduit, presque réduit à l'os dans ces scènes, hein, comme s'il s'agissait vraiment de, peut-être aussi, non seulement de terrifier, mais de prêter à l'interprétation. Car, j'ouvre une parenthèse, mais lorsque le temple de Jérusalem en 70, pour la deuxième fois, est abattu par les troupes romaines, qu'est-ce qui vient se substituer au sacrifice ? L'interprétation, n'est-ce pas ?
Ouais.
Bon. C'était une assise.
Mais vous disiez dans la première partie qu'il ne faut surtout pas suivre l'exemple d'Abraham.
Oui. Alors, bien entendu, là, Søren Kierkegaard est très clair. Sûr. Il ne s'agit pas du tout de répéter l'acte d'Abraham. Abraham n'est pas un modèle. N'est pas un modèle dans son acte. Il est un modèle dans le caractère absolu, exorbitant, à la limite scandaleux, à la limite inintelligible de son acte. Parce que, évidemment, Kierkegaard s'est posé la question, mais qu'est-ce que la foi ? Est-ce que la foi, alors il dit quelque part que le contraire du péché n'est pas la vie du juste, c'est la foi. Le contraire du péché, c'est la foi. Donc on substitue un acte délictueux du point de vue religieux, on lui substitue une sorte d'élévation spirituelle. Mais sans qu'il y ait, il y a de l'angoisse, mais il n'y a pas de vision mystique. En tout cas, c'est ce qu'affirme Kierkegaard. Alors, dans les traditions juives, chez Maïmonide, par exemple, on pense que cette scène est une scène qui a été vécue en rêve par Abraham. Abraham, qui tout de même, dans la tradition juive aussi, j'y reviens, est prophète.
Ouais.
Père des croyants, certes, patriarche, oui, mais aussi prophète.
Mais...
Bon, je reviens à des choses importantes.
Mais,
donc, le geste d'Abraham ne doit pas être imité. Abraham n'est pas un modèle. En tout cas, ce n'est pas un modèle au sens naïf de la modélisation.
Mais Kierkegaard, il en pense quoi de cet acte d'Abraham dans ce livre ?
Ce qu'il en pense, c'est que cet acte, symbolise, active, figure l'extrême radicalité de la foi au-delà de toute morale, de toute convention morale, puisqu'il y a tout un propos de Kierkegaard selon lequel l'expérience d'Abraham, c'est bien l'expérience singulière d'un sujet seul en face de son Dieu, seul. Autant la morale, la morale commune est de nature collective, autant ici, l'acte de foi est un acte de
individuel.
C'est un mouvement, je reviens, de pure singularité, qui ne concerne qu'un homme seul et qui d'ailleurs l'institue comme individu.
Oui.
L'acte de la foi institue l'homme comme individu. Et donc, il y a bien sûr chez Kierkegaard, mais disons que c'est un élément de la philosophie de son temps, il y a une véritable évaluation de la singularité de l'individu, une protestation aussi. Pas loin de Nietzsche, hein, une protestation contre la moraline, comme dit Nietzsche, c'est-à-dire la morale du groupe, enfin, qui est surtout irréfléchie, qui est conventionnelle, qui est habituelle, qui est répétitive. Voilà.
Alors, vous disiez dans la première partie que vous développeriez, après le silence. Parce qu'après cet événement, il y a le silence. Mais je vous propose, avant que vous en parliez, qu'on écoute à nouveau Steve Reich, puisqu'il a écrit un opéra dans les années 90, The Cave, hein, qui est sinistre, quoi. C'est vraiment
je ne pense pas que ce soit sinistre.
Ça dépend l'extrait que l'on va choisir.
Ah, peut-être.
The mirror says, that Adam and Eve were buried there. Adam and Eve were buried there. Were buried there.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous arrivons à la dernière partie de ces deux émissions intitulées « Kierkegaard commente le sacrifice d'Isaac ». Et merci Françoise Gernot, oui. Françoise, d'avancer dans le raisonnement jusqu'à la conclusion finale.
Eh bien, ces interprétations si vigoureuses de Kierkegaard témoignent, ou plutôt enrichissent, une phrase qui revient de manière presque obsessionnelle, une phrase qui scande tout l'ensemble de la méditation de Kierkegaard. Cette phrase, je vous la livre, « Abraham crut en vertu de l'absurde ». Alors l'absurde, qu'en est-il ? Autre chose, citation plus ample, « Les mouvements de la foi doivent toujours être faits en vertu de l'absurde. » Comme s'il devait y avoir une transgression vers une transcendance pure. Voilà. Entre parenthèses, Kierkegaard oppose le héros tragique, par exemple Agamemnon, qui sacrifie sa fille Iphigénie
oui.
À Abraham, qu'il intitule « Le chevalier de la foi ». Le chevalier de la foi. Un peu baroque. Hein. Alors justement, pourquoi ? Parce que Agamemnon sacrifie sa fille Iphigénie pour que les...
Comment dire ? Les vents.
Que les vents
se lèvent.
Hein, se lèvent, de telle sorte que toute l'armée des Achéens puisse aller vers Ilion.
Donc c'est pour un bien commun, en fait.
Pour un bien commun, voilà. Donc c'est un sacrifice qui est enlisé, en quelque sorte, dans le monde la communauté des guerriers achéens. Tel n'est pas le cas, justement, Abraham. Contraste pour Agamemnon. Tel n'est pas le cas pour Abraham. Hein? Donc là, il y a quelque chose de tout à fait intéressant, car Abraham ne relève pas du code du tragique, mais du code du religieux. Et du reste, c'est beaucoup plus épouvantable. Enfin. Je suis un tout petit peu pressée par le temps, donc je vais revenir à une page, la page 136, si vous voulez bien, et je vais essayer de résumer à partir de là et de revenir justement, ou d'en venir seulement à cette question du silence qui, si j'ose dire, plombe toute cette histoire. Je vous propose de revenir à un passage, hein, lorsque Dieu exige Isaac, il s'agit bien sûr du passage de Kierkegaard, lorsque Dieu exige Isaac, il doit l'aimer, si possible, plus tendrement encore, et ce n'est qu'à cette condition qu'il peut le sacrifier. Lorsque Dieu exige Isaac, Abraham, bien sûr, hein, car c'est cet amour pour Isaac, par son opposition paradoxale, le mot paradoxe revient aussi de manière tout à fait presque compulsive dans ce texte, car c'est cet amour pour Isaac, par son opposition paradoxale à l'amour qu'il porte à Dieu, qui fait de son acte un sacrifice. Mais l'angoisse et la détresse de ce paradoxe font qu'Abraham, humainement parlant, peut-être, ou bien donc un meurtrier, ou l'homme même, la personnalité même de la foi. Bon. Alors justement, l'angoisse est liée à une thématique très insistante aussi chez Kierkegaard, qui est celle du silence, et qui d'une certaine manière regroupe tout ce que nous avons dit sur la singularité de cet acte de foi absolu d'Abraham. Abraham ne parla point. Alors dans tout ce récit, or, je vais y venir, la question d'Isaac, où est l'animal à sacrifier, tout est silencieux. Ainsi, je lis, Abraham ne parla point, il ne parla point à Sarah, ni à Eliezer, son second, ni à Isaac. Il ne tint pas compte des trois instances éthiques, c'est-à-dire la famille, les serviteurs, car pour Abraham, l'éthique, que j'ai définie précédemment, n'avait de plus haute expression que la vie familiale. Donc on est au-delà de l'éthique. Je m'en suis expliqué d'abord. Eh bien, je continue. Alors toujours, ou bien l'individu en tant qu'individu peut établir un rapport avec l'absolu, et ainsi l'éthique n'est pas la chose suprême. Ou bien Abraham est perdu, il n'est ni un héros tragique, ni un héros esthétique, c'est-à-dire qui vivrait dans la jouissance des instants. Je dois répéter à ce propos que celui qui s'en est convaincu ne saurait être un chevalier de la foi. Car la souffrance et l'angoisse sont les seules justifications qui puissent se concevoir, bien qu'elles ne sachent être pensées en des termes généraux, sans que le paradoxe ne disparaisse. L'angoisse, elle est liée justement au paradoxe. Et à l'angoisse répond, si j'ose dire, le silence. Abraham se tait, il ne peut pas parler. C'est en cela que consistent la souffrance et l'angoisse. Plus loin, Abraham ne peut parler. Il ne parle aucune langue humaine. Dût-il parler toutes les langues de la terre et dût-le comprendre ceux qu'il aime, Abraham ne peut parler. Il parle une langue divine, il parle en langue. Alors tout se passe comme si ce silence était d'une certaine manière un langage de l'au-delà, un langage lui aussi de l'absolu, inarticulable et inintelligible pour les hommes que nous sommes, les hommes et les femmes que nous sommes, c'est-à-dire les êtres de l'éthique, de la morale commune. Alors, je vais reprendre. Ainsi, Abraham ne parla pas, il n'a été conservé de lui qu'un seul mot, sa seule réponse à Isaac, laquelle prouve suffisamment qu'il n'avait jamais parlé auparavant. Isaac demande à Abraham où est l'agneau du sacrifice. Abraham lui répond, « Mon fils, Dieu aura soin de fournir lui-même la victime qui doit être offerte en holocauste. » Alors justement, je voudrais faire référence aux conférences, aux cours d'André Nair auxquels j'ai assisté dans les années 70. Ce sur quoi insiste André Nair, c'est justement que toute cette scène est une scène silencieuse. C'est-à-dire pendant les 3 jours du voyage, silence, sauf cette question d'Isaac, à laquelle, là aussi, Abraham répond par une sorte d'énigme. Et peut-être aussi, dans cette réponse, y a-t-il une ambivalence, ce qui permet à dire, dans un vocabulaire très particulier, à Kierkegaard qu'il s'agit d'une réponse ironique. Je voudrais vous lire André Nair. Ner, deux points. Par-delà la Kéda, de l'acquiescement au silence, le moment, l'acmé, n'est pas une vision mystique, mais une épreuve. Parole et silence, qui se dénouent par la rupture du dialogue entre Abraham et Dieu pour revenir à l'œuvre humaine. Alors, en effet, je n'ai pas le temps de lire ça, ce serait pourtant très très beau. Après cette épreuve, une fois qu'Abraham a reçu bénédiction, la bénédiction de l'ange, eh bien, il revient à la vie sociale, puisqu'il retourne à Beersheba, il enterre son épouse et il se remarie. Hein? Donc, on retombe dans le quotidien, ce que Kierkegaard d'ailleurs ne souligne pas, mais ce que souligne en revanche André Ner pour montrer comment l'aventure d'Abraham ne donne pas lieu à une effusion mystique et polémique de Ner qui serait de type chrétien.
J'ai envie de dire qu'il n'est pas traumatisé. Dans le vocabulaire actuel, on dirait qu'il n'est pas traumatisé. Il se remarie, il se...
Ah mais non, il a vécu, mais il ne parle plus à Dieu. Oui. Hein, ce qui est important, c'est qu'entre Abraham et Dieu, la communication est coupée. La communication est coupée. Alors la question est de savoir, et j'enchaîne sur Derrida, Derrida insiste sur le passage entre le silence et le secret. Alors qu'en est-il du secret ? Derrida assure que ce silence qui perdure est un silence qui est secret. Or, justement, en lisant ce mois-ci un livre de Roberto Calasso, hein, essayiste, philosophe italien, le livre est de 2019, Roberto Calasso revient sur cette histoire de silence et surtout de secret. Et voilà ce qu'il dit, en se justifiant d'un autre passage de la Bible, et je trouve cela tout à fait passionnant. Il s'agit de l'histoire de Jacob. Jacob et Laban, qui sont son beau-père, qui sont dans des relations extrêmement vives, extrêmement conflictuelles, décident d'une part de se séparer, mais de sceller une sorte d'accord dans cette séparation. Et l'un jure, Laban, sur ses dieux, puisqu'il est demeuré, bien que de la même famille qu'Abraham, il est demeuré polythéiste, et Jacob jure sur... Alors Jacob jura par la terreur de son père Isaac. C'était la seconde fois que cette expression apparaissait. Alors dans le texte biblique, hein, il s'agit il s'agit de la Genèse encore. Si le serment était respecté, alors Jacob jura par la terreur de son père Isaac. C'était la seconde fois que cette expression apparaissait dans ce passage biblique de la Genèse. Et si jamais Jacob commettait une parjure, alors bien sûr, la terreur d'Isaac serait en jeu. Je continue. Voilà. Si le serment était respecté, la terreur d'Isaac deviendrait le signe de reconnaissance pour les fils d'Israël. Nom que, peu d'heures après, fut attribué à Jacob. Hein, Jacob devient Israël. Ainsi, la terreur d'Isaac demeure imprimée sur toute sa descendance. Et un autre texte, toujours du même. Quand son fils Jacob dut jurer, il jura par la terreur de son père Isaac, ce qui était un moment unique que personne d'autre n'aurait pu connaître. C'était le secret d'Isaac et il le transmit à son fils Jacob. Quant à son père Abraham, il avait vu cette terreur. C'était l'anneau, cette terreur, qui réunissait le père, le fils et le petit-fils. Pour cela, on pouvait parler du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc je termine sur une note autre.
Oui, mais ça veut bien dire que même si Abraham n'avait pas parlé, Isaac avait vécu cette terreur aussi de son côté.
Alors simplement, Isaac a dit à son fils Jacob
la terreur qu'il avait ressentie,
qu'il avait éprouvée. Mmh. Et cette terreur qu'il a éprouvée, Abraham la connaissait, l'avait vue. Mmh. Abraham voit, Isaac éprouve et transmet. Et Jacob jure, c'est-à-dire que l'identité du peuple juif dans cette interprétation est liée à cette chaîne, selon Calasso, à cette chaîne où le secret est tout de même transmis de grand-père à fils, à petit-fils.
Oui, donc
On n'a pas intitulé cette émission le silence parce que ça tout de même était transmis. Et c'est la fondation même d'Israël.
Oui. Encore un mot. Le troisième passage, puisqu'il y a trois problèmes de Kierkegaard, est le suivant. Problème 3, réponse à la question. D'un point de vue éthique, peut-on justifier le silence d'Abraham sur son projet envers Sarah, envers Eliezer et envers Isaac?
Donc c'est bien ce problème.
C'est bien le problème du silence.
Du silence.
Qui est ici mis en relief.
Merci beaucoup Françoise pour ces explications et toutes ces lectures. Certaines je ne connaissais pas. Merci à vous.